France Bleu Loire Océan, à votre service. Cathy Kerzéro, Julie Fior.
Avant de faire les cartons et de caler la pendaison de crémaillère, objectif ce matin, se poser les bonnes questions lorsqu'on cherche une location. Alors, location à l'année, hein, pas l'appart des vacances. Comment choisir son futur logement? À quoi faut-il être attentif quand on visite et même quand on monte son dossier?
À votre service, les spécialistes, avec ce matin Audrey Lemercier de l'ADIL, l'agence départementale d'information sur le logement de Loire-Atlantique. Contrat de bail, état des lieux, dépôt de garantie, entretien et réparation locative. Vous posez toutes vos questions au 02 40 73 6000.
Audrey, bonjour.
Bonjour.
Donc Audrey Lemercier, responsable information logement à l'ADIL, donc l'agence départementale d'information sur le logement de Loire-Atlantique. Donc vous, vos locaux sont près de la place Vierme. On peut déjà préciser qu'il y a plein d'antennes de permanence partout en France et notamment donc chez nous en Loire-Atlantique.
Exactement.
34, je crois, c'est ça, hein?
C'est ça, 34. Une agence à Nantes, une agence à Saint-Nazaire et puis 34 permanences sur tout le département.
Idem en Vendée. Avec
l'ADIL
85, avec la 12 permanence. On précise à chaque fois qu'il y a un intervenant de l'ADIL, je trouve que c'est important de le repréciser, ce sont des conseils absolument neutres et totalement gratuits.
Tout à fait, et objectifs. Bon. C'est très important pour nous aussi de se le dire, sur une même situation, on peut tout aussi bien conseiller le locataire que le propriétaire. On est voilà neutre et objectif.
Et là, vous allez organiser toute une série d'ateliers autour du logement. Je prends mon logement, choisir un logement, je prévois mon budget, choisir un contrat d'énergie. Le 7 mai, 25 avril, 31 mai, 11 juin, enfin voilà, ça va s'étaler là jusqu'à fin juin. On va rentrer dans le vif du sujet sur justement lorsqu'on doit chercher un logement, quelles sont en gros les bonnes questions à se poser. Voilà. Parce qu'on se dit, il y a des gens pour qui c'est évident, et puis il y en a d'autres, vous peut-être, ou vos enfants, vos petits-enfants, bah, c'est un peu le flou. Donc c'est l'objectif de cette émission, c'est vraiment faire en sorte que vous vous posiez les bonnes questions avec vous, Audrey.
Exactement. C'est vrai que voilà, ça peut paraître tout bête, mais il y a quand même plein de choses à avoir en tête avant de se lancer dans sa recherche, et pas de faire les choses à l'envers. C'est vrai qu'il y a quand même pas mal de gens, je pense, qui vont directement sur les sites internet, qui marchent parfois peut-être un petit peu au coup de cœur, mais sans avoir anticipé ou réfléchi à tout ce que peut induire de prendre ce logement-là. Donc les bonnes questions déjà de départ, c'est le lieu. On le dit souvent, le lieu, où est-ce que je veux habiter, en lien avec mon lieu de travail, mon lieu peut-être d'études, hein, parce qu'on sait que là ça va être la phase aussi où il y a beaucoup d'étudiants voilà, ou de jeunes salariés qui vont arriver sur le territoire chercher un logement. Donc où est-ce que je veux me situer? Est-ce que je suis prêt à prendre les transports? Ou est-ce que non, c'est hors de question et je veux aller au travail ou sur mon lieu d'études à pied? Donc la localisation est vraiment hyper importante.
Localisation aussi par rapport aux écoles, si on a des enfants.
Au commerce, aux écoles, aux transports. On entend souvent, moi je vais être Nantes-centre-ville, la métropole est très étendue, les réseaux de transport sont très étendus, si on est sur la Carène c'est la même chose, il y a un réseau de transport très très étoffé, donc est-ce qu'on n'est pas prêt à faire un petit temps de transport en plus pour peut-être aussi être dans un endroit un petit peu plus calme, être un petit peu plus reculé des centres névralgiques de la ville. Quels sont les projets de vie aussi, hein, court et moyen terme, parce qu'on sait qu'un emménagement et un déménagement c'est des frais, on est en couple, est-ce qu'on a déjà pensé peut-être avoir un enfant, pour peut-être anticiper d'avoir une chambre en plus dès le début, et ça c'est parce que l'impact financier derrière il peut être quand même assez conséquent pour le ménage.
Donc déjà, on réfléchit à son projet de vie.
Tout à fait.
Et, alors, je vais dire à moyen terme.
À moyen terme. Voilà, c'est de la vie pleine de surprises. On ne sait jamais forcément à l'avance, mais essayer d'anticiper ces choses-là.
Donc le lieu, ça c'est super important. Et après, quand on visite l'appartement ou même quand on voit les petites annonces, qu'est-ce qui est important?
Alors déjà, être hyper réactif. On est sur un territoire où qu'on soit sur le département. Hein. Alors bien sûr, plutôt sur autour de Saint-Nazaire et de Nantes, mais on est sur un territoire assez tendu. Il n'y a pas forcément beaucoup d'offres, donc vraiment être très réactif, c'est-à-dire éplucher tous les sites internet. Tout le monde entend parler de Le Bon Coin, mais il y en a plein d'autres. Hein. Il y a West France Immo, Logique Immo, Bien Vivre Ici. Enfin, il y a vraiment pas mal de sites internet. Pensez aux études notariales aussi. C'est pas forcément très connu, mais les études notariales proposent aussi des biens en location. Donc élargir le plus large possible, se mettre des filtres, se mettre des alertes et contacter les propriétaires ou les agences dès que l'annonce sort. Ça paraît tout bête, mais voilà, des fois on se dit je le mets de côté, j'appellerai plus tard, et puis bah le plus tard, malheureusement, souvent ça nous est passé sous le nez.
Ouais, ça va
donc
vite,
ça va très vite, ça va très très vite.
Ça veut dire qu'on check plusieurs fois par jour, quoi. Enfin, c'est vraiment
malheureusement c'est souvent un petit peu le cas.
Ouais, c'est ça.
Quoi. Et dans être réactif, c'est aussi avoir hyper bien préparé son dossier en amont, parce que justement ça va tellement vite que c'est pas une fois qu'on a vu l'annonce qu'on s'est dit tiens, qu'est-ce que je vais mettre dans mon dossier, quelles sont les pièces. Il faut préparer son dossier, on va dire, au cordeau. Et comme ça, au moins, dès que l'annonce sort et qu'on est prêt à aller faire la visite, au moins, on a son dossier prêt.
C'est-à-dire qu'en gros, si je vous écoute, si on arrive à trouver un appart qui nous intéresse, à décrocher une visite, ce qui n'est pas le cas tout le temps.
Tout à fait.
Quand on arrive à la visite, on a le dossier ?
Idéalement.
Ah ouais.
Idéalement.
Qu'est-ce qu'il faut? Parce que si on n'a jamais fait, je sais pas, admettons, quelqu'un, c'est le premier logement.
Le premier logement.
Qu'est-ce qu'il faut dans le dossier?
Alors, pour la personne qui va vraiment être locataire, ou les personnes qui vont être locataires, un justificatif d'identité. Ça, c'est la base. Un justificatif de domicile. Vous me direz, vous avez peut-être pas forcément déjà un domicile. Une attestation d'hébergement, par exemple, des parents, quand c'est un étudiant ou quelqu'un qui n'a pas encore décohabité, ça marche aussi. Une preuve de l'activité professionnelle. Quand je dis professionnel, ça peut être le contrat de travail, le contrat d'alternance, le contrat de service civique, la carte d'étudiant, enfin ouais, ce qui montre ce que fait le futur locataire. Et puis, un justificatif des ressources. Même chose, bulletin de salaire, avis d'impôt, extrait cabis, toute entrée d'argent qui va être possible, même aide des organismes sociaux, etc. Ça, c'est valable pour les locataires et c'est valable aussi pour la personne qui potentiellement se portera garant pour ce ou cette future locataire.
D'accord. Et ça, c'est légal. Donc, quelqu'un qui nous demande trois derniers ou six derniers bulletins de salaire, l'avis d'imposition.
Ouais, c'est les trois derniers.
Trois derniers
bulletins de salaire, légalement. Voilà, dans la loi, c'est les trois derniers. Il y a des documents qui n'ont pas lieu d'être, qui n'ont pas besoin d'être demandés ou qui sont interdits d'être demandés. Je pense notamment au casier judiciaire. Aucune raison qu'on demande ce document-là, les relevés de compte.
Mais c'est vrai que dans le cadre de la location, on peut aussi se dire, bah mince, en fait, je dois souvent donner des données personnelles. Voilà, dans une recherche de location, c'est vrai que c'est avec tout ce qui se passe, usurpation d'identité, tout ça, on n'est pas très à l'aise avec tout ça.
On n'est pas très à l'aise, mais malheureusement, c'est le jeu. C'est vrai que c'est le jeu, parce que le propriétaire en face va aussi avoir besoin de garanties, il va savoir à qui il a affaire. Mais par contre, voilà, au moins, la loi indique des documents qui sont légaux, et il faut pas dépasser ça. Donc en effet, casier judiciaire, il n'y a pas de raison. Attestation de sécu, il n'y a pas de raison. Relevé de compte, il n'y a pas de raison, par exemple. Ça, c'est interdit d'être demandé.
Ah oui, relevé de compte, il n'y a pas le droit. D'accord,
ouais, tout à fait.
Puisqu'on parle de légalité, alors je pense qu'on n'est peut-être pas trop concerné par chez nous, mais moi j'ai vu pas mal d'articles passer sur des locations à Paris, où on demandait carrément aux gens, pour visiter, le marché il est tellement tendu, de payer pour aller visiter. Vous avez eu des cas comme ça, on vous a parlé de choses comme ça, la DID ici?
Pas tant que ça, je ne crois pas. Après, il faut se dire que légalement, il n'y a pas de raison. Normalement, on n'est pas censé payer avant même d'avoir signé le contrat de bail ou d'avoir fait l'état des lieux d'entrée. Le premier loyer, il est à verser au moment vraiment de la signature ou de l'entrée dans les lieux. Dans la pratique, je pense qu'en effet, ça se fait, mais légalement, c'est pas ce qui est censé être
et
en pratique.
Évidemment, si on le dénonce, l'appart nous passe sous le nez, voilà. Mais d'une façon générale, c'est ce qu'on me disait quand on a préparé cette émission, quand c'est trop beau, trop bien,
il y a un loup. Attention, attention aux arnaques. Trop beau, pas cher, un super descriptif, plein de services. Il faut, avoir un petit peu se mettre la puce à l'oreille, et se dire que c'est peut-être pas fiable.
Est-ce qu'on sait combien de temps un bien reste sur le marché en location ou pas?
Moi, j'ai pas de chiffres là particuliers là-dessus. Je les ai pas cherchés avant de venir, mais ça dépend aussi de la période. Là, on va rentrer dans une période où on sait que
avec les étudiants
et pas que, il y a plein de nouveaux ménages qui vont arriver sur le territoire parce que affectation pour la rentrée prochaine, etc. Là, on va rentrer dans une phase où un bien
avant l'été, c'est le moment critique.
C'est ça. C'est un petit peu moins le cas quand c'est la période hivernale, on va dire, et que les situations sont un petit peu plus stables, qu'il y a moins de mutations ou d'arrivées sur le territoire. Et encore, mais voilà, souvent en quelques heures, ça peut vite être parti.
Waouh. Allez, à votre service, les spécialistes. Vous avez des questions à poser en matière de logement. Je vous rappelle qu'on a avec nous Audrey Lemercier, donc de l'ADIL de Loire-Atlantique, 02 40 73 6000. L'ADIL, c'est l'agence départementale d'information sur le logement de Loire-Atlantique. Avec, je le rappelle d'ailleurs, toute une série d'ateliers qui vont arriver sur cette thématique du choix du logement. Je prends mon logement, choisir un logement, je prévois mon budget, choisir un contrat d'énergie, gérer ces contrats d'énergie. Toutes les infos sur le site de l'ADIL, c'est
adil44.fr.
Voilà. Là, Audrey, vous nous avez donné plein d'infos pour préparer sa visite, pour chercher les appartes sur le net. Une fois qu'on a déniché un truc qui nous semble pas mal, comment est-ce qu'on organise la visite? Enfin, à quoi il faut être attentif durant la visite?
C'est qu'il y a des points de vigilance à avoir, assez importants, et qui vont notamment avoir un impact conséquent sur la consommation d'énergie. Alors, on l'a dit, la localisation, la localisation de l'immeuble ou de la maison en tant que telle, parce que c'est important de savoir voilà dans quel quartier on est, quel commerce, transport peut y avoir à côté, on l'a dit tout à l'heure. Quand c'est un appartement, mine de rien, la localisation dans l'immeuble peut aussi jouer. Bien sûr, un rez-de-chaussée sera toujours un petit peu plus frais que un appartement qui est situé vraiment en plein cœur de l'immeuble et qui serait chauffé un peu par tous les alentours, par les voisins. Donc ça peut être important à regarder.
L'orientation. Bah oui.
Alors évidemment, tout le monde ne peut pas avoir un appartement plein sud, hein, mais essayer de regarder l'orientation, parce que on peut être plus ou moins sensible à la lumière, plus ou moins sensible à la chaleur. Donc voilà, en fonction de chacun, prêtez une petite attention là-dessus. Et après, le type de vitrage. Est-ce qu'on est sur du double vitrage? Est-ce qu'on est encore sur du simple vitrage? Le choix du chauffage, gaz, électrique. Si c'est gaz, choisir à gaz. Pensez aussi qu'il y aura l'entretien à faire dans l'année. C'est des petites choses hein, quand même à avoir en tête. L'étiquette énergétique, très importante. On en entend parler un peu partout aussi en ce moment dans les médias. Faire un petit peu attention à ça, parce que bah, mine de rien, ça va vous impacter derrière aussi sur vos consommations d'énergie.
En gros, on arrive dans un appart, c'est des vitres à l'ancienne, simple vitrage, il est F et il y a une chaudière à gaz.
Petit à petit, il y a une loi, la loi climat et résilience hein, qui est passée et qui fait que à terme, les passoires thermiques ne pourront plus être en location. Mais voilà, ces points de vigilance-là sont vraiment importants si vous ne voulez pas, derrière, vous retrouver avec des consommations assez conséquentes.
Alors, Audrey, je vous propose de partir tout de suite en Vendée, à l'est de Châlons, à Froidefond, chez Sophie. Bonjour Sophie.
Oui, bonjour à vous. Bonjour.
Bienvenue Sophie. Bienvenue sur France de l'Océan.
Dites-nous, voilà. Quelle est votre question, Sophie?
Eh bien, écoutez, moi, j'ai demandé le DPE à ma propriétaire. J'espère qu'elle se reconnaîtra, d'ailleurs. Et en fait, elle est venue me voir en me faisant du chantage, en me disant si je voulais le DPE, elle allait augmenter mon loyer. Donc, j'ai demandé le DPE. Ça fait quand même 3 ans que j'habite cette maison. Et en fait, quand le DPE a été fait, elle est revenue, elle m'a d'abord apporté un courrier que je devais signer, comme quoi j'étais d'accord qu'elle augmente le loyer. Je n'ai pas accepté de signer, donc elle a augmenté le loyer en m'envoyant une lettre recommandée pour le mois de mai. Mm-hmm. Est-ce que c'était normal?
Alors, l'augmentation du loyer, elle est réglementée. Réglementé, hein, elle ne peut pas se faire comme ça pour des motifs en plus qui ne sont pas forcément légaux. Et notamment, l'augmentation du loyer, il faut qu'elle soit mentionnée déjà dans le bail que vous avez signé. Alors, à voir quand vous aviez signé votre bail, ce qui est mentionné dessus. Et puis, il faut que ça respecte un indice, hein, ce qu'on appelle l'IRL, l'indice de révision des loyers. Moi, ce que je peux vous inviter à faire, pour votre situation bien en particulier, c'est de contacter la DIL du 85. Je ne sais pas si vous avez déjà été en contact avec eux, mais c'est en effet le type de questions, de situations qu'on a régulièrement pour ne pas dire tous les jours. Donc, en tout cas, voilà, l'augmentation du loyer, il y a une réglementation. Hein, ça peut pas se faire comme ça, selon le bon vouloir des uns et des autres, sinon ça serait un petit peu trop facile. Donc, je vous invite vraiment à vous rapprocher de nos collègues de la DIL de Vendée.
Et là, donc là, vous allez sur le site de l'ADIL 85, mm-hmm. Et là, vous pourrez prendre rendez-vous.
C'est ça, en agence ou sur des permanences en fonction de votre lieu d'habitation.
On rappelle que c'est gratuit, Sophie, et je pense que là, j'imagine...
Il y aura des choses à déblayer, je pense, en effet, sur votre situation, madame.
On vous demandera peut-être de faire là une lettre type que vous enverrez aussi en recommandé, et ça devrait...
Tout à fait, exactement.
À mon avis, bien calmer votre propriétaire, peut-être, ça.
Mm. Et est-ce que, une toute petite question, elle a exigé, quand j'ai pris la maison, que je fasse un chèque de 500 € pour réserver la maison. C'est pas une caution, 500 €.
C'est ce que je disais tout à l'heure, normalement, légalement, on n'est pas censé payer quoi que ce soit avant la signature du bail ou la remise des clés. Donc normalement, vous êtes censé payer uniquement si vous passez directement par un propriétaire bailleur, sans intermédiaire, donc sans agence, notaire, etc. Vous êtes censé payer votre loyer et votre dépôt de garantie. Vous n'êtes pas censé payer autre chose que ces deux premiers postes d'entrée, quoi.
Parce que là, vous l'a rendu,
c'est
chèque
ce que
de 500
demandé.
Oui, elle me l'a rendu, mais c'est quand même inadmissible de demander un chèque de...
Ça commençait déjà pas très bien.
Ouais. Petit signe d'alerte, en effet. Mais bon, on ne peut jamais savoir ce que donnera derrière la relation. Mais...
Bon, bah, si elle nous écoute...
S'il vous plaît, madame, attention, on n'augmente pas le loyer n'importe comment.
Et puis, la propriétaire peut aussi contacter la DIL pour connaître elle aussi ses droits, mais aussi ses devoirs vis-à-vis de ses locataires.
Voilà. Mais bon, voilà, si madame la locataire écoute, voilà, sachez que Sophie va aller voir la DIL en Vendée et que là, on va cadrer l'histoire, quoi. Voilà.
Merci beaucoup.
À bientôt. Bah,
avec plaisir, Sophie.
À bientôt, Sophie. Toujours avec nous, Audrey Lemercier, responsable information logement de l'ADIL, l'agence départementale d'information sur le logement de Loire-Atlantique. Plein d'infos hein, pour choisir son logement, sa location. Éléments clés, les sous, le budget.
Mmh, tout à fait.
À quoi il faut réfléchir côté budget quand on cherche
un
appartement.
C'est vrai que dans son budget il va y avoir les frais un peu voilà au quotidien une fois qu'on est installé dans le logement, mais il faut penser aux frais aussi à son entrée dans le logement. On dit de toute façon qu'en général le budget logement global va représenter à peu près 30-33% en poste de dépenses. Ça peut même parfois être plus hein, clairement sur des jeunes qui sont étudiants, le logement ça peut des fois représenter 50% de leur budget. Donc voilà, faut vraiment l'anticiper, faire le parallèle entre toutes les ressources qu'on va avoir, toutes les entrées d'argent parce que salaire, parce que aide financière de la famille, parce que aide d'organismes sociaux, et penser toutes les dépenses. Dans les dépenses, en effet, il y a le loyer, puis il y a ses charges. Donc déjà, petit point de vigilance, quand on a les charges comprises, toujours bien clarifié avec l'agence immobilière ou le propriétaire, qu'est-ce que comprend les charges en fait ? Parce que charges comprises, ça peut très bien être juste l'eau, mais ça peut aussi être l'eau, le chauffage, la taxe d'ordure ménagère. Enfin, vraiment clarifier ça, c'est hyper important. Et puis derrière, il faut se dire que quand je prends un logement, je vais évidemment avoir à sortir le premier loyer, le dépôt de garantie, potentiellement des frais d'intermédiaire. On parlait tout à l'heure d'agence et d'études notariales, il peut y avoir des frais en complément, l'assurance habitation.
Ah oui.
Bah oui, indispensable, ça c'est obligatoire d'avoir son assurance habitation. Et puis il peut y avoir des frais pour les ouvertures de compteurs hein, différents, eau, gaz, électricité, son abonnement internet. Enfin voilà, faut vraiment anticiper tous les frais que peuvent induire le logement puis la vie derrière le
premier
logement,
mois
quoi.
C'est beaucoup, quoi.
C'est ça, tout à fait. Alors après bien sûr les mois suivants voilà c'est le loyer et puis principalement les factures. Et puis premier logement, réfléchir aussi, on en a pas parlé tout à l'heure, mais est-ce que je le prends meublé ou non meublé, si je le prends non meublé et que c'est en plus mon premier logement potentiellement, et bah bien anticiper aussi tout l'équipement, l'ameublement de cet appartement. Et penser du coup aussi à tout ce qui est ressourcerie, seconde main, il y a des choses super, en très bon état, ça peut permettre d'avoir une installation à moindre coût, on va dire, dans ce logement.
Vous aviez commencé à l'évoquer tout à l'heure, il faut aussi anticiper tout ce qui est réparation ou entretien.
Tout à fait.
Peut-être que quand on est un jeune locataire, on se dit, bah non, c'est pas pour moi. Si, il y a des trucs,
c'est pour le locataire. Il faut vraiment anticiper aussi toutes ces menues réparations. Il y a des choses qui vont vraiment être de la charge du locataire, d'autres qui vont être de la charge du propriétaire, mais il y a beaucoup de choses en fait qui sont à la charge du locataire parce que liées à la vie courante aussi dans le logement. Pour donner juste un ou deux petits exemples, voilà, il y a des volets dans votre logement, il faut les entretenir, il faut les graisser, ça c'est pas de la charge du propriétaire. Robinetterie, on sait très bien que les joints ça s'use quand même relativement vite, les joints c'est au locataire de le refaire. Voilà, au niveau à la DIL, on peut vous fournir un peu hein, la liste de justement tout ce qui incombe au locataire, mais bien l'avoir en tête parce que c'est ce qui derrière pourrait potentiellement être retenu sur le dépôt de garantie aussi à la sortie du logement.
Voilà, sachant qu'il faut aussi que quand on entre, l'état des lieux soit fait aussi correctement.
Et
ça, c'est encore une autre histoire.
Et bien, voilà,
une autre
point de vigilance sur tout ce qui peut y être noté, notamment à l'entrée.
Merci à vous, on le rappelle, Audrey Lemercier, donc de l'ADIL, avec toute cette série d'ateliers là qui va arriver, toutes les infos sur adil44.fr.
Merci à vous.
Merci.